supermarché. La France en face, c'est tout de suite. Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari, leur invité, le maire de Béziers, Robert Ménard. 21h sur Europe 1.
La France en face, sur Europe 1 et CNews. Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à ma chère Sonia.
Bonsoir Laurence.
Bienvenue dans cette émission, nouvelle émission La France en face sur CNews et sur Europe 1. Un nouveau numéro de cette émission politique alors que le gouvernement vient d'engager sa responsabilité à l'aide du 49-3 à quelques semaines des élections municipales et dans un contexte, Sonia, de bouleversement mondial extrêmement menaçant.
Et notre invité ce soir est un élu, un homme de terrain connu pour son franc-parler. Bonsoir et bienvenue Robert Ménard.
Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Merci de votre présence. Vous êtes le maire d'Hiver droit de la ville de Béziers, candidat à votre réélection. Et comme l'a dit Laurence, on va vous interroger sur les élections municipales qui approchent, sur les droites et une éventuelle union de ces droites, sur les défis français et bien sûr l'international.
Et on va parler aussi, pour commencer, Robert Ménard, du budget à l'Assemblée nationale. C'est reparti pour un tour. Le Premier ministre a dégainé donc un 49-3, le premier, aujourd'hui. Il a détaillé l'ensemble des mesures qu'il propose. Si l'on en croit l'exécutif, Robert Ménard, cette nouvelle copie, c'est le meilleur budget pour la France, pour les classes moyennes, pour les classes populaires, pour la jeunesse. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est une plaisanterie?
Non, c'était pas une plaisanterie. C'est une question.
Attendez, d'abord, je me contrefous que ce soit par ordonnance, que ce soit au 49-3. Écoutez, tout le monde s'en fout, il n'y a pas que moi, tout le monde s'en bat l'œil. La seule chose qui compte là, c'est qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ah oui, on veut faire plaisir à tout le monde. Enfin, attendez,
aux ça... Aux socialistes d'abord.
Attends, mais oui, et puis ça n'existe pas. Ça n'existe... Moi, vous allez me dire, je veux 2 millions par mois de salaire. Ben oui, je rêverais de vous les donner. Sauf que ça n'existe pas. Je prends juste une mesure. Je trouve formidable de proposer à tous les étudiants des repas à 1 euro. Enfin, qui va payer ça? Qui va payer ça? Ça n'a pas de sens. On est dans une espèce de situation où le gouvernement, pour pouvoir sauver sa peau, est prêt à faire toutes les concessions. Moi, je n'ai pas envie, pour mon pays, compromettre des choses qui, demain, vont s'avérer des catastrophes. Ça s'appelle de la lâcheté. Or, le 49-3 et tout là, ça intéresse souvent trois journalistes politiques. En tout cas, ça ne m'intéresse pas. Et je sais qu'aujourd'hui, on va devoir faire des économies sur un certain nombre de plans. On les fera, par exemple, sur le dos des entreprises.
On va en parler.
Attendez, moi, je suis maire.
C'est un mauvais budget pour la France.
Mais bien sûr que c'est un mauvais budget pour la France. Vous voulez vraiment vous passer, y compris des grands groupes? Moi, chez moi, je me bats pour qu'un grand groupe, dont je ne vais pas citer le nom, arrive, qui est un groupe du luxe. Mais écoutez, j'ai discuté avec eux. Vous croyez qu'ils ont envie encore de faire des efforts? Mais on a besoin de ça. On est suicidaires. On est suicidaire.
Et pourtant, le gouvernement affirme que c'est ce budget qu'il faut à la France, aussi imparfait qu'il soit, et il met en avant l'argument de la stabilité, eu égard à ce dont on va parler,
c'est
dans une situation internationale totalement...
Vous avez raison, c'est vrai que c'est stable. Là, en ce moment, c'est stable, c'est tout ce qu'il y a de plus stable. Enfin, c'est de la foutaise de dire ça. Là, on n'a ni la stabilité, ni un minimum de réalisme, de pragmatisme. On n'a rien. On n'a rien. On perd sur les deux tableaux. Mais c'est aussi, attendez, c'est pas que la faute de la gauche, c'est aussi la faute de la droite. Enfin, vous avez vu toute une partie des députés du LR qui, pour sauver leur poste, parce que c'est quand même ça, pour sauver leur peau, sont prêts à voter tout un tas de choses.
Ça, c'est la peur bleue de retourner devant les Français. Mais
bien sûr.
Les urnes.
Enfin, pourquoi vous croyez qu'il y a un certain nombre qui voteront pas un certain nombre de motions de censure? Parce qu'ils y sont opposés ou parce qu'ils ont peur de perdre leur place? Bien sûr que c'est la deuxième option. Et en plus, ça discrédite toute la politique. Moi, des fois, j'ai honte de dire que je fais de la politique. Parce que quand les gens, alors que je trouve que c'est bien de faire la politique, écoutez, ça te prend ta vie de faire la politique et tu le fais pas pour toi. Sinon, tu fais autre chose dans la vie. Et je pense ça. Et en même temps, quand je vois le comportement d'un certain nombre d'hommes politiques, pardon, de droite et de gauche, leur lâcheté...
Donc PSLR.
Mais attendez, vous les voyez pas? Chacun veut sauver sa peau. Ils veulent sauver la peau, ils veulent sauver la France. Qu'est-ce qui est important? La France ou leur siège?
Donc, on a la réponse.
Vous avez la réponse.
Robert Ménard, député, aurait voté l'une des deux motions de censure.
Je sais pas si je les aurais votées, je ne sais pas. En tout cas, j'aurais pas pris comme critère de choix ma propre survie. Si comme maire, je devais dire que des choses populaires, mais il y a des choses que je ne veux pas dire parce que je les pense pas. Enfin, il n'y a pas des choses, ça s'appelle, pardon, ça s'appelle la morale. C'est pas un grand mot, il y a des choses qu'on ne dit pas. Moi, j'entends, et c'est à ton mot de gens, dire des choses dont ils savent pertinemment que ça se fera pas. Pardon, vous croyez que j'ai pas envie de la retraite à 60 ans? Enfin, moi, je connais dans ma ville, il y a tout un, vous ramassez des ordures tous les matins. Vous savez, si c'est fatigant, je vous dis tout de suite, c'est plus fatigant que le travail qu'on fait tous les trois.
Certainement.
Et tous les trois ensemble même. Mais attendez. C'est pas vrai.
D'accord. Et c'est quoi le discours de vérité? Faut travailler plus?
Bah, attendez, comment vous voulez faire? Non, il faut que les gens qui ont un boulot difficile travaillent moins et les gens qui ont un boulot comme nous, ils travaillent plus. Voilà. C'est comme les repas à 1 euro pour les étudiants. Les boursiers, bien sûr, dont les familles n'ont pas beaucoup d'argent, ceux qui ont de l'argent, enfin, vous allez donner, vous, 1 euro pour le repas des enfants de milliardaires, parce qu'il y a un certain nombre de milliardaires, j'ai vu une étude, là.
Ils mangent pas beaucoup au Crous, hein. Ils mangent pas au Crous. Hein.
Ben, ou de millionnaires, évidemment pas.
Robert
Ménard.
On traite
pas les gens de la même façon.
Première question d'un téléspectateur, d'une auditrice, en l'occurrence. Elle s'appelle Fatia, gérante d'un restaurant. Elle vous questionne sur les retraites, justement, qu'on vient d'aborder.
Bonjour, je m'appelle Fatia, j'ai 62 ans, je suis gérante d'un restaurant et j'aimerais savoir quel est le devenir de nos retraites, qu'est-ce qui va se passer, quelle est votre position par rapport à ça?
Robert Ménard.
Écoutez, moi je dois être un primaire de base.
C'est-à-dire?
Ben, c'est assez simple. On vit de plus en plus longtemps. Mm-hmm. Il y a de moins en moins de gens pour payer les retraites de ceux qui sont en retraite. Et vous faites rien et vous changez rien. Mais ça n'existe pas. Vous ne vous posez pas une question toute bêtassonne. Dans toute l'Europe, on fait travailler les gens plus, sauf ici. Parce qu'on a quoi? Un génie français qui fait qu'on est mieux, différent, plus intelligent que toute l'Europe réunie. Mais ce n'est pas vrai, madame.
Le gouvernement a cédé sur la réforme
d'Erdogan. Il a cédé parce que...
C'est nous qui allons payer, selon vous?
Ben attendez, parce qu'il veut séduire le Parti Socialiste, qui lui-même est capable de dire sur ce terrain-là n'importe quoi. Mais il n'y a pas que sur ce terrain-là. Marine Le Pen, elle dit des bêtises. Elle ne peut pas dire ça. En plus, je la connais depuis des années. Je suis sûr qu'elle ne le pense pas. Aujourd'hui, oui.
Donc c'est insincère ce qu'elle dit?
Non, il faut dire aujourd'hui, encore une fois, pour ceux qui ont des boulots difficiles, il faut les faire partir plus tôt. Pour les autres, il faut qu'ils travaillent plus, sinon on ne s'en sortira pas. C'est aussi simple que ça. Quant à, attendez, quant au reste de la droite, les macronistes et la droite, ces gens-là quand même.
Mais qui trouve grâce à vos yeux, Robert Ménard?
Je sais pas, moi, je peux vous donner des gens, des noms de gens que je trouve rien, j'en sais rien, moi.
Non, mais rassurez-nous, il y a encore des responsables
Bruno
politiques
Retailleau,
dans notre pays,
Bruno
à la morale intacte.
Bruno Retailleau, je trouve que c'est un mec bien.
Et pourtant, sur le budget, voilà.
Attendez, moi, la dernière fois que je l'ai vu, j'ai dit, mais comment tu as fait une connerie pareille en partant comme t'es parti? Vous pouvez dire que c'est critique. Mm-hmm. Mais moi, je m'en fous. Sonia Mabrouk, je m'en fous de ce que je dis. Moi, je vais pas quémander le soutien des partis. Je ne suis pas dans un parti. Je quémande le soutien de personne. Je dis juste ce que je pense. Attendez, vous pouvez. J'ai dit tellement de bêtises que je suis capable de reconnaître, mais j'en dis. Je peux dire des conneries régulièrement. Mais je ne vais pas demander à quelqu'un de me dire ce qu'il pense. Je n'ai pas des éléments de langage. Ce soir, je ne me suis pas dit, tiens, j'appelle la direction du parti, de quelque parti que ce soit, qu'est-ce que je vais dire pour répondre? Je vous dis ce que je pense.
Vous avez raison. Un petit mot de ce qu'a dit quand même le gouvernement sur le RN et LFI. Tireur couché, saboteur, les mots employés par Sébastien Lecornu sont extrêmement forts. Mais qui leur a donné le baril de poudre, je dirais, à ces saboteurs? Ce n'est Emmanuel Macron.
Attends, qui a fait cette dissolution de fou furieux? Qui? Tu t'en sors pas de ça. C'est lui qui porte la responsabilité. Tu tournes, tu vires. C'est lui qui porte la principale responsabilité. C'est lui qui est le fautif. C'est lui qui, dans le western, est le méchant.
C'est lui qui est patient zéro de cette situation. Quelles conséquences faut-il?
Mais attendez, moi je pense qu'il fallait qu'il parte et qu'il faut qu'il parte.
Aussi? Jusqu'à aujourd'hui?
Expliquez-moi. Ce pays, toutes les institutions de ce pays, elles sont construites autour du chef de l'État. Alors, vous pouvez dire que ce n'est pas une bonne idée, mais enfin, en tout cas, c'est comme
c'est
ça maintenant. Attendez, quand tu fais un choix aussi absurde que la dissolution et que tu vois comment, les conséquences que ça a, tu en tires les conséquences normales. Tu dis, j'aime ce pays. Moi, je croyais qu'il aurait été capable de dire ça. Vous me disiez, les gens ne trouvent pas grâce à mes yeux. Si, moi, je ne critique pas tout ce que fait M. Macron sur la scène internationale, qui dit des choses plus intéressantes que d'autres. Mais moi, je m'étais dit, il est jeune, il est intelligent, il peut avoir du talent. Je me suis dit, j'aurais rêvé de quoi? Qu'ils disent, Je me suis trompé. Je me suis trompé, peut-être de bonne foi, attendez, je n'ai pas ausculté les reins et les cœurs des gens, j'en sais rien. De bonne foi, voilà, je vois, là, dans, il n'aurait pas dit ça, j'allais dire dans la mer dans laquelle je mets ce pays, mais enfin, de la difficulté.
Non, sans doute pas, oui.
Oui, je sais, madame, oui. Qui ne parle pas comme ça. Non, mais...
Peut-être voilà. En privé,
oui.
Comment ?
Peut-être en privé.
Ouais, mais moi, je le fais en public, pas en privé. J'ai dit la même chose en privé et en public. Voilà, j'ai fait une bêtise, je n'ai pas mesuré, je m'en vais. Mais tu en sors grandi. Et puis même, à l'avenir, tu te construis un futur. Là, quel futur il se construit ?
Mais par exemple, qu'est-ce qui aurait changé ? Par exemple, là, comme le dit Laurence, c'est un budget quand même estampillé socialiste. Et quand on voit la réalité de ceux qui détiennent le pouvoir dans ce pays, de la Cour des comptes jusqu'à certaines organisations ou institutions, il y a beaucoup de socialistes, c'est pas une question complotiste. Comment vous expliquez qu'un parti avec 1,7% aux élections présidentielles ait un tel poids, une telle influence en France ?
Enfin, vous connaissez la réponse comme moi, madame Abrouk. C'est que toute une partie de la droite, elle a toujours eu honte d'être de droite. Moi, je suis d'une génération où les gens, ils ne disaient jamais ça, dire de droite. Moi, j'étais dans des milieux des droits de l'homme. Oh là, tu vois, c'était le mal absolu. Tu disais pas ça. Tu passais ta vie à montrer patte blanche. Tu passes ta vie à essayer de séduire. La gauche, c'est ce que fait monsieur Lecornu. Ils font tout ça. Ils peuvent pas leur dire d'aller se faire foutre. Une minute. Non, mais pardon.
On a dit que vous étiez connu pour une franc-parler.
C'est vrai, vous avez raison. J'enlève ça. Mais tu peux leur dire, vous vous foutez de nous. Mm-hmm. Vous foutez de nous. Vous nous expliquez quoi ? Qu'il y a une situation budgétaire catastrophique, que la France, un jour, elle le paiera. Vous savez, c'est comme les trucs, c'est Pierre et le loup. À force de toujours jamais voir la catastrophe, tu finis par croire qu'elle n'existe pas. Elle va exister, la catastrophe. La France, elle ne peut pas continuer comme ça. Tu dis ça et tu... Et en même temps, tu dépenses toujours plus d'argent. Et il y a tout un tas de types de droite qui vont voter ça. Mais enfin, ils sont quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Ouais, j'allais dire, il y a une autre grosseté. Qu'est-ce qu'ils ont dans...
Quel est leur logiciel, on va dire ?
Ouais, voilà. Bon. Je ne dis pas qu'elle... Est-ce qu'ils ont un peu de courage pour dire on n'est pas comme ça, on pense que c'est
mais
une bonne solution,
on
va perdre les élections, mais au moins on les perd avec panache.
Robert
tu
Ménard.
Tu
ne
peux pas perdre des choses avec panache.
Alors, il faut une nouvelle dissolution, alors, si je vous entends bien.
Il faut que les Français puissent s'exprimer. Vous ne pouvez pas continuer à faire ça. Vous ne pouvez pas continuer à faire ça. Et quant à ceux qui pensent que la proportionnelle, ça réglera les trucs, mais la proportionnelle, ce sera 10 fois plus de bordel. On a goûté un tout petit peu ce que c'est. Vous allez voir ce que ça va être. Moi, je pense qu'il faut qu'à la tête de l'État, il y ait un homme ou une femme qui soit assez fort pour guider ce pays. On a besoin de ça.
Robert Ménard, dans quelques instants, on va aborder les questions internationales. Mais pour faire le lien, est-ce que vous imaginez, pardonnez-moi de poser la question ainsi, qu'on puisse résister à Donald Trump quand on a cédé à Olivier Faure ?
Raccourci, saisissant
un peu.
Ouais, non, j'avoue. La question est un peu
biaisée.
Non, attendez, non.
Je valide. J'ai annoncé la question.
Je trouve Macron sur l'Ukraine mieux qu'il n'est par rapport à M. Faure. Voilà ma réponse. Je trouve que sur l'Ukraine, il a dit des choses pas si mal que ça.
Alors,
il a changé au début et à la fin, mais aujourd'hui, c'est pas si mal que ça. Sur le Groenland, mais enfin, il a raison. Vous plaisantez. Quoi ? Vous voulez vraiment ?
Non, je vous pose la question.
Attends, c'est un caractériel,
monsieur,
enfin.
Vous parlez de courage. Il y a le courage des mots, il y a le courage des actes.
Attendez. Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait un certain nombre de soldats, une poignée de soldats européens qui aillent au Groenland. Enfin, c'est mieux que rien.
Les Allemands sont revenus.
Ouais, attendez. Je trouve qu'il faudrait en faire un peu plus, mais c'est mieux que ceux qui vous disent « Ah non, il ne faut pas aller là, sur l'Ukraine, il faut les laisser se faire massacrer, et sur l'Iran, c'est trop compliqué. »
On a entendu.
Enfin, de temps en temps, tu as un peu de courage.
On a glissé justement sur cette seconde partie qui concerne l'international, notamment Donald Trump. On a vu que le ton est monté d'un cran, Robert Ménard, entre Donald Trump et les Européens et la France. Le président américain a révélé des SMS que lui avait envoyé Emmanuel Macron.
Quelle élégance.
Il y a des menaces de hausse de droits de douane, 200% de menaces sur les vins et spiritueux français. Quelle doit être la riposte française, européenne, à votre avis ?
Il faut taper du poing sur la table. On a affaire à un fou furieux, caractériel et cupide. Il n'est pas guidé.
Vous pensez pas qu'il est dans la mesure, là ? Pardonnez-moi, parce que vous me reprochez peut-être d'être caricatural, mais vous ne l'êtes pas, là ?
Et lui, il est dans la mesure. Il n'est pas cupide.
Il est président des États-Unis d'Amérique.
Il n'est pas cupide. Il ne fait pas des affaires... Pas seulement il ne sert pas les intérêts des États-Unis avec un cynisme absolu, Il défend les intérêts familiaux dans un certain nombre de pays. Les affaires qu'il fait en Arabie Saoudite et ses enfants, c'est quoi ? Ça pèse pas sur sa politique, mais vous plaisantez ? Vous savez, moi j'ai beaucoup travaillé en Afrique. Vous savez à quoi il me... C'est Amin Dada à la Maison Blanche. C'est Amin Dada à la Maison Blanche.
On parle de la plus grande démocratie.
C'est un cas social à la Maison Blanche. C'est un danger public. Mais vous rendez compte quand il en est.
Cicatriser le débat.
Bah attendez, mais vous plaisantez. Vous l'avez entendu sur le pré. Attends, c'était qui le premier ministre norvégien? Il lui dit. Oui. Ah, j'ai pas eu mon prix Nobel, alors je me sens plus obligé de défendre la paix. Mais enfin, vos enfants, madame, ils disent ça, mes gosses, ils disent ça, pas le chef d'État des États-Unis.
Mais est-ce que c'est toujours un allié, Donald Trump, pour
mais
nous?
Mais là, bien sûr que non.
C'est quoi alors?
Mais je sais pas.
C'est pas
je
un ennemi.
Je ne sais pas.
Les États-Unis ne sont pas notre ennemi.
S'il envahit le Groenland, vous direz quoi, madame? Vous direz, il est quoi? Il nous fait la guerre, il ne sera pas vraiment un allié.
Mais pardonnez-moi, combien de responsables politiques et les Danois ont défendu le Groenland avant qu'on arrive à cette situation? Il y a un an, le fou furieux dont vous parliez avait déjà annoncé la couleur. Les Européens sont restés figés, tétanisés, bloqués.
Attendez, c'est pas la même chose. Je vous dis ce que je pense de lui. Si la question est-ce qu'on est à la hauteur face à cet ouragan de folie? Non. Mais je pense que le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne le prend pas au pied de la lettre. Je veux dire, malheureusement, il faut écouter ce qu'il dit. Alors, je ne vais pas faire des comparaisons historiques qui n'ont pas lieu d'être faites, mais les pires sur le terrain politique, les plus cyniques, les plus calculateurs et tout, c'est des gens souvent qui disent la vérité. Regardez Poutine. Poutine, il n'a pas caché. Attendez.
Trump-Poutine, même combat ?
Aujourd'hui, pareil.
Trump-Poutine, même combat.
Et pourquoi ? Quelle différence y a ?
Ben, je ne sais pas.
Quelle différence ?
Les États-Unis entre sont quel... un allié historique, basculer comme
attendez,
ça,
mais moi, je... Trump, attendez, mais moi, attendez. Moi, je ne confonds pas les États-Unis, le peuple américain et M. Trump. Je ne confonds pas la Russie, le peuple russe et M. Poutine. Vous me posez des questions sur les dirigeants. Moi, j'ai de l'amitié pour le peuple russe. Enfin, j'y suis allé je sais pas combien de fois pour défendre des gens. Tenez, des journalistes comme vous qui se faisaient tuer dans des rédactions. Je mets pas sur le même plan les journalistes assassinés en Russie et M. Poutine, d'un côté. Qui envahit? Est-ce qu'on pensait une chose? Mais vous m'auriez demandé à moi, la semaine avant l'intervention de M. Poutine en Ukraine, s'il allait le faire. Je vous aurais dit, vous êtes folle. À toutes les deux, vous m'auriez dit ça. J'ai dit, mais vous avez perdu la raison. Enfin, il a de la jugeote, il ne va pas faire ça, c'est une provocation. Le problème, c'est que l'un et l'autre
donc,
sont capables de le faire.
Il peut envahir le Groenland, et donc il faut qu'on aille se battre non seulement en Ukraine, mais aussi au Groenland.
Attends,
Robert Ménard.
Mais oui.
Ok, on en doit.
Attendez, mais c'est terrible. Attendez, c'est terrible, parce que moi, je vois toute une droite qui, quand je dis ça, dit « Oh, quand même, la réponse en général, c'est tes enfants, ils iraient là-bas. » Les mêmes types qui te font des leçons sur l'histoire, sur la trahison des élites, sur le fait qu'avant 39-45, les gens, ils voyaient pas venir l'Allemagne hitlérienne, ils étaient défaitistes et tout, et qu'ils regardaient. Ils te font exactement la même chose aujourd'hui. Bien sûr, quand j'ai entendu le général dire « nos enfants », mais il parlait pas de vos enfants et des miens. Moi, vous avez chanté la Marseillaise. Dans la Marseillaise, il y a quoi ? Nos enfants de la patrie. Nos enfants, c'est pas nos gosses que vous avez et que j'ai. C'est les enfants, les militaires français. Oui, nos enfants, les militaires français, leur métier, leur job, c'est de se battre pour ce pays. Et s'il faut se battre au Groenland, parce qu'on ne peut pas laisser faire ça, je pense qu'ils devront le faire.
Alors demain, on se bat pour quel autre pays? Parce que là, en réalité, on parle de l'OTAN. Hein. C'est bien ça, l'enjeu par rapport au Groenland. Donc demain, on se bat pour quel autre pays?
Pardon.
Où est-ce que vous mettez la limite de ce qui devient...
Le Groenland, c'est un pays européen, madame?
Il a quitté l'Union européenne.
Attendez. C'est un pays européen. Ils ont quitté l'Union européenne. C'est un pays européen. La Norvège, elle n'est pas, à ma connaissance, dans l'Europe. C'est un pays européen. Je pense que la seule chance qu'on a dans le monde avec les conflits qu'il y a aujourd'hui, c'est de se dire ce qu'on est, madame. On est 450 millions d'habitants. On est le plus gros marché intérieur du monde. Une des armées, quand vous ajoutez les différentes armées, les plus puissantes du monde. Deux pays en Europe, c'est pour ça que je parle de l'Europe et pas l'Union européenne, deux pays qui ont l'arme nucléaire. et on n'est pas capable de se faire respecter.
Et vous savez quel est le pourcentage d'armement américain qui est sert aux armées européennes? Ah ouais. On est à près de 70%.
Attendez,
qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
Et madame,
pour 600 commandes de F-35 en ce moment en Europe, pas une n'a été annulée.
Bien sûr,
ça, l'Europe?
Mais non, bien sûr que je suis d'accord avec vous. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, oui, mais en même temps, les mêmes droites vous disent qu'il ne faut pas plus d'Europe. Moi, je pense que sur un certain nombre de sujets, il faut plus d'Europe. Plus d'Europe. Sur le domaine militaire, il faut, si on veut peser, on ne pèsera pas tout seul, madame. On ne pèsera pas tout seul sur le monde. Je veux bien que vous me disiez ce que vous voulez. Vous pouvez faire tous les cocoricos du monde. Aujourd'hui, on a besoin de l'Europe parce que c'est elle qui pèse sur la scène internationale. Vous voulez peser comment? Vis-à-vis des Chinois, des Russes ou des Américains? Comment vous faites?
C'est simplement de vous confronter à une réalité, comme le dit Laurence, d'ailleurs, quand les Danois achètent, ils achètent américains. Vous parlez d'une coopération militaire. L'Allemagne veut avoir la première armée aujourd'hui d'Europe et investit massivement. C'est ça le couple franco-allemand aujourd'hui?
Mais bien sûr que non. Mais pendant
de
des
Europe parlez-vous?
Mais madame, pendant des années, tous, pas qu'une partie, tous, on n'a pas voulu voir les choses en face. On était dans des pays qui vivent confortablement. On pensait qu'il y avait les Américains pour nous protéger des agressions. Mmh. On n'a pas dépensé l'argent qu'il fallait dépenser pour s'armer. Pardon, le monde, peut-être parce que j'ai fait 25 ans dans les droits de l'homme, la guerre, elle est omniprésente. Enfin, vous le savez, enfin, vous savez comme moi, vous avez fait le monde entier, vous, une et l'autre. Vous savez ce que c'est. Aujourd'hui, la paix qu'on a eue en Europe, c'était une exception. C'était une exception. On redécouvre le drame, la violence. Bien sûr que... Mais la guerre, elle a été la règle dans le monde entier. C'est parce qu'elle n'était pas chez nous. On découvre d'abord avec l'ex-Yougoslavie et ensuite avec l'Ukraine que la guerre, elle peut être au cœur de l'Europe. On l'oubliait, la guerre, c'était un truc un peu exotique. Vous savez, ils se tuaient au Sud-Soudan, mais c'est tellement loin, le Sud-Soudan, t'avais l'impression que c'était un autre continent. Et non, la guerre, elle est là. Le drame, elle est là. La violence est là. Et par rapport à ça, vous ne pouvez pas continuer à faire le bisounours qui dit « Non, mais moi, je suis gentil, j'ai l'état de droit, j'aime ça, il y a le multiculturel, il y a le multinational, il y a les organisations internationales, ça va nous protéger. » Honnêtement, vous pensez que quelqu'un va nous protéger aujourd'hui?
Multilatéralisme.
Et les institutions internationales, il faut les revoir complètement? L'ONU, il faut passer au Conseil de la paix à propos de Trump.
Attendez,
ces institutions sont obsolètes.
Elles sont moribondes. En même temps, le système que nous propose M. Trump, c'est se foutre de la figure du monde. Il est président à vie du monde. C'est même pas lié au fait qu'il soit président des États-Unis. Il veut un comité de paix, c'est ça, où qu'il présidera, il décidera qui y aura et tout. Enfin, attendez, mais ça va pas bien la tête. Vous voulez accepter ça? On a vraiment envie de devenir les vassaux des États-Unis? Vous avez envie, vous? Vous avez envie de prendre vos ordres à Washington ou à New York? Non, mais moi non plus.
Eh ben, est-ce que l'Europe ne les a pas pris pendant des années?
Pendant trop, mais oui.
Et à l'instant, Donald Trump...
Mais oui, vous avez raison. Mais enfin, attendez, ils ont fait des conneries, ils se sont trompés et tout. Moi, je préfère dire ça et maintenant dire qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait tous ensemble?
D'accord, donc vous êtes prêt jusqu'à une intervention en Groenland et à l'instant, Donald Trump affirme qu'il ira jusqu'au bout et il dit un peu de manière bravache, vous allez voir justement jusqu'où on va aller.
Enfin, attendez, vous, est-ce que vous pensez une seconde qu'on peut accepter ça? Vous l'accepteriez? Non, je vous pose une question.
Moi, je vous pose une question, monsieur, quand on va à la guerre ou à la bataille commerciale, il faut aller armé, déterminé. Donc combien de divisions l'Europe aujourd'hui?
Enfin, attendez, on a le... Parmi les plus grands nombres d'armes américaines dans le monde entier.
Donc, Trump ne donne pas son feu vert, on est d'accord.
Attends, il ne s'agit pas de provoquer.
Les avions ne décollent pas.
Attendez, il s'agit
les
pas.
Les missiles ne partent pas.
Il ne s'agit pas de provoquer les Américains. Mais aujourd'hui, une intervention des Américains en Groenland, vous ne pouvez pas rester les bras croisés. C'est impossible. Alors, si vous avez envie d'abdiquer ce que nous sommes.
Et...
Non, mais je sais bien. Si nous avons envie d'abdiquer tout honneur.
Personne n'a envie d'abdiquer.
Toute capacité à dire non, de temps en temps, il faut savoir.
Donc vous soutenez Emmanuel Macron dans ce bras de fer qu'il mène avec Donald Trump, quand il dit aussi qu'il faut être craint, pour être craint, il faut être puissant. Est-ce que la France a les moyens de récupérer sa souveraineté nationale sur ce sujet-là?
Ah, il n'y a pas participé à tout ça. Il le découvre maintenant. Attendez, mais on peut dire à la fois... Moi, je suis en désaccord avec le chef de l'État, je vous l'ai dit, sur la dissolution, sur plein de choses. sur l'Ukraine, il a plus raison qu'un certain nombre d'autres gens en France. Moi, je n'ai pas envie d'abandonner le peuple ukrainien. Je les connais, j'y suis allé je ne sais pas combien de fois. C'est vrai que c'est un régime où il y a de la corruption et tout, comme s'il n'y en avait pas en Russie. Juste... Il y a un... et eux, ils sont les agressés et les autres sont les agresseurs. Pardon, oui, il a plus raison qu'un certain nombre de gens. Mais on peut dire ça. C'est terrible le débat politique. Si tu dis ça, les gens ils ont l'impression que tu trahis ton camp. Moi, je ne suis pas d'un camp. Je ne suis pas d'un camp. Je ne dis pas mon camp a raison sur tout et quand ils disent ça, ils ont raison.
Et
quand ils disent
une connerie, c'est la France, alors.
Comment ? Votre camp, moi, c'est mon pays, madame. Okay. Mon pays. Alors, je ne peux pas à la fois faire des discours comme plein de gens à droite sur la grandeur de ce pays, la force de ce pays, l'histoire de ce pays, l'histoire de ce pays. La capacité que ce pays a eue à se relever dans les pires des moments.
Notamment aux États-Unis, il faut bien
le dire. Aussi, mais attendez, moi, vous croyez que je suis anti-américain? Une partie de la droite est anti-américaine. Moi, j'ai jamais été anti-américain. J'adore ce pays-là. Mais en même temps, quand tu as à la tête des États-Unis un monsieur comme Trump, qui exerce les chantages qu'il exerce, tu les acceptes pas, ou sinon t'es pas français.
21h25, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Robert Ménard est notre invité. Évoquons la question iranienne. On a une question d'un téléspectateur, Azadeh, philosophe, qui vous pose une question, Robert Ménard.
Bonjour Robert Ménard, je suis Azadeh, je suis philosophe, et je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez de la situation en Iran.
Il s'agissait d'une téléspectatrice.
J'ai eu cet après-midi encore des amis iraniens, parce que ayant fait ce que j'ai fait dans ma vie, je connais des gens à peu près dans tous les pays du monde, ils parlent de bien plus de morts qu'on ne parle. Ils parlent de dizaines de milliers de morts. Ils m'expliquaient que dans un certain nombre d'hôpitaux, des gens rentraient pour achever
les blessés.
Ils font une description apocalyptique. Et moi, voyez, sur Trump, parce que le monde est plus compliqué que blanc et noir, évidemment, quand Trump a dit au peuple iranien, en gros, je serai avec vous, révoltez-vous.
Allez-y, l'aide arrive.
Mais ils l'ont pris au sérieux. Moi, j'avais une copine iranienne, une jeune femme iranienne, tout à l'heure, qui me dit ça, mais il me dit, mais nous, on l'a cru, on est descendu dans la rue, en se disant, ils seront derrière nous. Et pouf, il n'est plus là. Et regardez le massacre, parce qu'on ne sait rien, ni vous, ni moi, on ne sait rien de précis. C'est un massacre à huis clos. Alors à la fois, moi j'aime le Trump qui est capable de dire « je suis derrière vous », je déteste le Trump pour des raisons de géopolitique qui sacrifie ce peuple-là. C'est un immense peuple, le peuple iranien, c'est une immense civilisation. C'est des gens qui ont... Il y a un génie iranien, il y a une culture iranienne phénoménale et qu'on les oublie comme ça. Mais j'ai honte.
Est-ce que la France est suffisamment présente? Est-ce que la voix de la France parle? Le président français est suffisamment en soutien des opprimés iraniens et des Iraniens?
Il a dit des mots, je ne les aurais pas dit comme ça, je les aurais dit avec plus de force, j'aurais dit peut-être avec plus de cœur. Mais enfin, je ne vais pas lui faire ce procès-là. Oui, je suis bouleversé par ça, parce que je les connais, parce que c'est des amis, c'est des familles que je connais et tout. Et ils te racontent ce qu'ils sont en train de vivre. Et ils constatent d'être qu'on les a oubliés, on les a abandonnés. Là, on en parle, c'est bien. Eux, vous savez ce qu'ils m'ont demandé? Des gens savaient que je venais chez vous, ils m'ont dit, il faut absolument que tu parles un petit peu de l'Iran. C'est pas possible qu'on nous oublie comme ça. Mais je sais bien que vous avez parlé, je leur ai dit, il n'y a pas de problème, je les connais toutes les deux, elles ne vont pas oublier l'Iran. On a envie, vous, moi, on a envie de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Mais on les a poussés, là. On les a poussés. Trump les a poussés dans la rue. Et aujourd'hui, tu peux pas d'un coup expliquer, ça y est, vous rappelez du jour au lendemain, ils vont plus faire d'exécution. Attendez, quand ce sera passé un peu les phares de l'actualité sur le pays, on verra les exécutions, les pendaisons, comment elles vont reprendre.
Robert Ménard, ce qui est saisissant, c'est qu'en Iran, les jeunes femmes se battent pour enlever le voile, et qu'en France, certaines se battent pour le porter. Manon Bruy était votre invitée il y a quelques jours, Sonia, elle qualifie ça de bout de tissu. Comment est-ce que vous voyez cela? Je vous sens accablé.
Attendez, je suis accablé. Mais comment tu peux dire un truc comme ça? Comment tu peux pas voir ce que ça représente? Quelle aide je vais lui donner un téléphone de 10 femmes iraniennes qui vont lui expliquer ce que ça veut dire. Vous savez les risques qu'elles prennent en enlevant leur voile sur leur tête, le risque colossal qu'elle voit. Et elle, c'est un bout de chiffon. Mais c'est le voile, quoi qu'en pense un certain nombre de gens, c'est évidemment un geste de soumission à l'homme. Évidemment, c'est une position de comment des femmes ici qui se sont battues pour que les femmes soient égalité aux hommes ne voient pas cette réalité-là ? Autre calcul, alors peut-être un peu plus cynique, elles se disent peut-être que notre électorat, il est dans un certain nombre de quartiers où il y a justement beaucoup de femmes voilées, et on va dire ça. Alors si c'est ça la politique...
C'est le cas aussi de certains quartiers à Béziers, et pourtant je pense que vous ne changez pas votre discours.
Mais non, je ne change pas mon discours.
Des quartiers,
je ne change pas mon discours, et je ne vais pas dire aux gens le contraire de ce que je vous dis là, parce que je suis dans un quartier où il y a une majorité musulmane. Mais peut-être que Madame Aubry et d'autres dames ont pas la même conception, ou d'autres hommes ont pas la même conception que moi du devoir qu'on a.
Et pour aller plus loin, vous dites que derrière chaque voile, il y a quand même une idéologie islamiste, mais derrière chaque femme voilée, non.
Bien sûr que non, derrière chaque femme voilée, non. Personne, enfin, vous connaissez mieux que moi l'islam et un certain nombre de pays musulmans, vous savez bien que c'est pas vrai. Moi, je vois des jeunes femmes chez moi qui disent pas ça et qui le vivent pas comme ça. Elles le vivent comme une affirmation de leur identité, de leur spécificité. Elles ont envie, dans une société, de se faire entendre. Vous croyez que je suis assez con pour pas comprendre qu'il vaut mieux s'appeler Robert que Mohamed ? Vous croyez que je suis à ce point abruti de croire que ça ne pèse pas d'avoir un prénom musulman et que tu peux, dans ces cas-là, quand t'es une femme, te dire, c'est une façon d'affirmer, malgré tout ça, ce que je suis. Ça, c'est ce qu'elles vivent subjectivement. Aujourd'hui, Madame Mabrouk, aujourd'hui, porter le voile et dire ce n'est rien d'autre qu'un bout de tissu est une imbécilité, une trahison. Une trahison par rapport, on parle d'Iran, mais il y a plein d'autres pays où des femmes se sont battues contre ça, contre le voile.
Robert Ménard, il y a eu de nombreuses manifestations, notamment sur Gaza, rien de tel pour l'Iran. Il y a eu des courageux qui se sont mobilisés, mais tellement peu. Le monde de l'art, le monde de la culture s'est très peu mobilisé. Comment vous analysez ce deux poids deux mesures dans la société française ?
Est-ce à dire que parce qu'il y a des juifs en face des Palestiniens ? Est-ce pour ça ? J'espère que je me trompe. J'espère que, comme vous disiez, vous l'une ou l'autre, j'exagère. Mmh. Mais bien sûr qu'il y a de ça. Bien sûr qu'il y a de ça. Mais vous savez, moi j'ai été aussi con que ces gens-là. Je me rappelle que vous étiez toutes les deux, vous êtes bien plus jeunes que moi. Moi je me rappelle avoir manifesté pour le Parti communiste vietnamien contre l'intervention américaine. Mmh. Quoi ? Eux, c'est leur Vietnam à eux. Et les conneries qu'on disait, enfin vous rappelez les conneries qu'on disait, c'était le Parti communiste. Comment ?
On n'était pas nés.
Je sais, non, mais enfin vous lisez. Bien sûr, je sais bien, je voulais commencer en vous disant vous n'étiez pas nés. Mais enfin moi je me souviens les conneries qu'on disait à la fac. On était avec le Viet Cong, c'était les pires. Ils ont torturé, ils sont comportés comme... Attendez, les Américains en face, c'était pas des saints. Mais enfin entre... Pardon, les États-Unis de cette époque-là et les régimes communistes, ce n'était pas la même chose.
Sur l'Iran, on peut rappeler combien la gauche s'est trompée en soutenant, et même plus que ça, Khomeini à l'époque.
En soutenant, en dressant des lauriers à Khomeini, le saint homme.
Alors, on va passer de c'est très très différent, de rassemblement à d'autres rassemblements, parce qu'aujourd'hui c'était très particulier, c'était à Strasbourg, on a vu que la colère paysanne se poursuit, elle est toujours vivace, notamment sur le Mercosur, mais pas seulement, plus largement Robert Ménard, est-ce que vous pensez vraiment que c'est depuis l'intérieur de l'Union européenne qu'on peut encore et toujours défendre les intérêts français aujourd'hui ?
Je ne sais pas répondre à cette question.
Ah ben elle est importante ?
Ben, oui, il y a des questions importantes, je n'ai pas de réponse, je ne sais pas. Je ne vais pas vous raconter que j'ai une réponse à tout, j'en ai pas. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on a quitté avec les paysans, c'est un joli mot les paysans, les paysans, pas les agriculteurs.
Paysages, paysans.
Exactement. Avec les paysans, on a quitté le domaine de l'économie, des chiffres. Ils ont le sentiment, moi je les connais, il n'y a que ça autour de chez moi, c'est les viticulteurs, mais il y a une ville qui baigne au milieu de la viticulture. Ils ont l'impression qu'il y a deux mondes. Il y a celui de Bruxelles, de Paris, et le nôtre. Cette province, vous savez, qu'on regarde un peu de haut. Aujourd'hui, ils ont le sentiment, et ils ont raison, qu'on ne les écoute plus, qu'ils sont une espèce de truc qui va finir par disparaître. Tout à l'heure, je parlais de l'Europe. Chez moi, à Béziers, il y a un certain nombre de produits qui vous permettent de produire plus de vin, qui sont interdits à Béziers, et qui sont autorisés de l'autre côté de la frontière espagnole. Comment vous voulez que les gens acceptent ça ?
Comprennent.
Cet été, il y a du vin chez moi qui s'est vendu à moins de 50 centimes le litre. Vous trouvez que c'est respecter les gens ? Je veux dire, on devrait en faire une cause nationale, des paysans. C'est eux qui vous nourrissent. Attendez, tout à l'heure, on mangera, vous prendrez un bout de pain demain matin, vous êtes bien content qu'il y ait des paysans pour faire du blé. Vous boirez un verre de vin, vous êtes bien content pour qu'ils soient dans la vigne et qu'ils soient en train de tailler en ce moment. Je pense que voilà, c'est ce que je dis. Dans ce domaine-là, pour ça, j'ai pas de réponse globale. Moi, ils sont venus chez moi, ils ont manifesté, ils étaient presque 7000 chez moi, ils sont venus chez moi parce que c'est le seul endroit où dans l'histoire de la France, des militaires ont refusé de tirer sur les paysans en 1907. Et donc, ils sont manifestés au même endroit exactement. Ils voulaient dire ça, ils voulaient dire, ils sont, les paysans, c'est plus que les autres, c'est ce pays. C'est une façon d'être français, c'est la France, les paysans. Vous le disiez tout à l'heure, c'est eux qui font les paysages. Chez moi, vous imaginez, s'il n'y avait pas les paysages. Les gens, ils pensent que les paysages, c'est un truc naturel. C'est pas naturel, c'est des paysages qui sont faits par des paysans.
Façonnés.
Voilà, donc la seule chose que je sais, c'est que je suis avec eux, que je les aime vraiment.
21h35, on est en direct sur CNews et Europe 1, Robert Ménard. On va évoquer la troisième partie qui concerne notamment les sujets régaliens et l'insécurité. Écoutez, François, qui est retraité, il a une question à vous poser.
Bonjour, je m'appelle François, je suis retraité. Bonjour monsieur Ménard. Et je sais que vous avez fait un travail formidable sur l'insécurité dans votre ville. Et je voudrais savoir quelles idées vous pourriez avoir pour régler ce problème d'insécurité sur le plan national. Merci beaucoup.
Mais écoutez, je vais me répéter, puis je vais dire du mal du camarade Macron, si vous permettez. Attendez, aujourd'hui, il y a plein de débats sur les lois et tout. Moi, le maire que je suis ne demande pas 50 choses. Là encore, j'aurais pu vous répondre que je ne sais pas sur un certain nombre, mais plein de choses, madame, que je ne sais pas. Et j'ai aucune honte à ne pas savoir. En revanche, je sais deux ou trois choses. Je sais que quand la police municipale à Béziers ou dans toute la France peut pas, madame, vous demander vos papiers d'identité.
Ouvrir votre coffre.
Peut pas vous demander d'ouvrir votre coffre. Peut pas savoir, parce qu'elle n'a pas accès aux fichiers, si par hasard vous avez pas volé la voiture que vous avez. Et c'est les mêmes que vous envoyez en première ligne. Mais enfin, comment c'est possible? Comment c'est ça? Attendez, alors maintenant c'est passé. Moi j'ai armé la police municipale. Enfin, à l'époque, c'était le signe même du fasciste en armes.
Aujourd'hui, plusieurs mairies...
Tout le monde le fait, parce qu'on a bien compris que c'était une obligation. Mais aujourd'hui, il faut d'abord plus de pouvoir pour la police municipale. La deuxième chose, ça va vous paraître, encore une fois, un peu pas assez sophistiqué. Je concède que je ne suis pas beaucoup sophistiqué. Il faut juste des peines, des places de prison. Il y a des gens qu'il faut mettre en prison pour nous mettre, nous, à l'abri de ces gens-là. Vous vous rappelez les promesses de M. Macron ? Vous vous rappelez les promesses de M. Macron ? Je vais construire 15 000 places de prison. Attendez, c'était en 2017. C'était le premier, avant qu'il soit élu pour la première fois. Elles sont où, les places de prison ? Comment, il en a fait 5 000 ? Madame, tant qu'on réglera pas ça, comme dans tout un tas de prisons, il y avait des rassemblements des gardiens de prison. Vous savez ce que ça doit être dur d'être gardien de prison ?
Bien sûr, évidemment.
Parce que trop gros nombre...
Sous-rémunéré.
Voilà, et puis quand il y a trop de gens dans les prisons, c'est certes sûrement embêtant pour les prisonniers, mais d'abord, pardon de vous le dire, avec sûrement, je dois être de droite et ne pas avoir de cœur, mais je pense surtout aux gardiens de prison où cette surpopulation est un danger... Pour eux.
C'est du bon sens.
Mais oui, c'est... Mais alors pourquoi on crée...
Armer la police municipale, plus de places de prison, évidemment notre personnel pénitentiaire protégé. Vous avez déjà eu l'occasion d'en parler directement avec Emmanuel Macron.
Il s'est foutu de ma gueule.
Oh.
Attends, quoi ? Attendez, je lui dis ça et je lui dis, tiens, il y a des pays où il y a des places de prison vides. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Je sais, vous me regardez comme ça, comme si j'avais dit une monstruosité sur lui.
C'est pas comment vous regardez.
Non, mais ce que je veux vous dire, je lui dis ça. Il me dit, oui, je vais m'en occuper. Vous rappelez, oui. C'était sur une chaîne concurrente, comme on dit dans un euphémisme. Et il me dit, non, je vais m'en occuper. Il s'en est pas occupé. Il y a 15 jours, je lui envoie un SMS en lui disant, ils sont où ? Il me dit, non, mais il n'y a pas de problème, je m'en occupe, mais il y en a en Espagne. Très bien, on a avancé, il y en a en Espagne. Il me dit, je vais demander au garde des Sceaux, qui n'est autre que M. Darmanin, de revenir vers vous pour voir comment... Pas de nouvelles du garde des Sceaux. Attendez, C'est un truc de bon sens. Si c'est très long de construire des prisons, s'il y a des places en Espagne, là, en Espagne, par rapport à chez moi, je vous raconte que c'est, précise que c'est plus près que de Paris, qu'une prison parisienne. Pourquoi on loue pas des places de prison? Il dit c'est du bon sens, mais nom de Dieu, qu'il l'applique, Alors après, il y a toute la politique pénitentiaire. Moi, je suis par exemple sidéré. Je vais vous dire un truc tout bête. Je suis sidéré. Madame, vous prenez un mois de prison. La première fois, vous faites un truc pas bien, vous prenez un mois de prison. Mais il y a des pays où tu fais le mois de prison. Voilà. Tu fais le mois de prison. Mmh. Et peut-être que ça te calme. Ici, si tu as fait... Il faut dire aux gens, les gens ne se mesurent pas ça. Si tu fais... Si la première fois, tu es condamné à moins d'un an de prison, tu ne vas pas en prison. Vous vous rendez compte le signal que ça donne ? Pourquoi on ne fait pas des choses aussi simples que ça ?
Autre sujet qui vous intéresse, ce sont les mariages de OQTF. Vous avez évidemment défrayé la chronique en refusant de marier un OQTF. On va écouter Lilian Commercial qui a une question à vous poser à ce sujet.
Bonsoir, je m'appelle Lilian, j'ai 27 ans, je suis commercial. Je voudrais savoir, monsieur le maire, que comptez-vous faire pour lutter contre les mariages blancs ?
Vous pouvez faire ?
Ah là, je vais aller en correctionnel.
Donc c'est vous qui êtes.
Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que les maires aient... arrête de parler, soyons polis, et juste fasse un truc très simple, c'est que quand... Enfin, moi, arrive un type, il est sous OQTF, il me le dit. Enfin, il le dit au service. Il a fait, il a été condamné à de la prison pour vol en réunion avec violence. Il est en situation illégale, et c'est moi qui vais être condamné. Vous l'auriez marié ? Vous l'auriez marié ?
Le maire d'Yverdon de Chessy, qui pourrait être contraint d'ailleurs de régler une note, une astreinte financière, demandée justement par un couple où il y avait un OQTF, vit à peu près la même situation.
Absolument. Attendez, je n'ai pas dit j'étais seul, on est 4 ou 5. Mais tous les maires devraient dire, vous nous mettez devant une... Moi, j'ai appelé tout le monde, depuis le ministre avant. J'ai dit, attendez, vous, il est en situation régulière, vous voulez savoir où il est ? Il sera samedi à 11h à la mairie, puisqu'il veut que je le marie.
Qui vous met dans cette situation ?
Mais tous. Pourquoi ils ne sont pas venus l'arrêter avant que je le marie ?
Qui a délivré l'OQTF ?
Comment ?
Qui a délivré cet OQTF ?
Ben, la France. On en applique combien, madame, d'OQTF ? Moins de 10%. La seule manière d'augmenter ça, c'est créer des centres de rétention administrative. Regardez le peu de maires qui acceptent de le faire. Il faut avoir un peu de conséquences. Je vais vous dire quelque chose, enfin, ne le prépare pas, je ne veux pas que ça paraisse prétentieux, c'est vraiment pas ça. À un moment donné, tu ne peux pas te contenter de dire « c'est pas bien, il faudrait faire ». Il faut le faire. Moi, je dis aux maires, là, attendez, aux maires, parce qu'ils vous avez qu'à refuser.
Ils ne veulent pas aussi, les maires, construire des prisons dans la
communauté. Oui, ils ne veulent pas. Et ensuite, ils ne veulent pas prendre le risque. Pas, je risque de la prison, je ne crois pas que j'irai en prison. Une amende, je pense qu'elle sera symbolique. Je risque quoi ? L'inéligibilité. Et c'est pour ça que les maires ne le font pas. Si demain, il y avait 200 maires... qui disait, parce qu'il y en a tout le temps des OQTF qui veulent se marier, moi j'en ai un, mais il y en a partout en France, qui disait, ah ben écoutez, on va pas les marier, on va en condamner 200, bien sûr que non.
C'est au maire de régir, mais c'était le président de la République qui vous avait dit que c'était une situation
ubuesque. Qu'est-ce qu'il a fait ?
C'est l'État qui délivre l'obligation de quitter le territoire.
Bien sûr, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il y a une proposition de loi qu'il n'a jamais mis... que le gouvernement n'a jamais mis, ce Wilmot, je pense que c'est lui qui l'a fait, qui ne l'a jamais mis devant le Parlement. Il n'a qu'à le faire. Plutôt que de me dire faire le beau en me disant c'est ubuesque, il avait raison, moi j'étais d'accord avec le mot, et tout ça. Puisque il est chef de l'État, madame, mais ce n'est pas moi le chef de l'État. Il n'a qu'à dire à son gouvernement, il y a un texte de loi qui a été voté au Parlement, au Sénat, je vais l'amener à l'Assemblée nationale et on aura un texte de loi qui me mettra à l'abri. Il met, pas que moi, tous les maires.
Pourquoi ne veulent-ils ne pas faire cela, selon vous ? Il y a une raison ?
Je trouve ça... Honnêtement, je ne sais pas. C'est pour faire plaisir, quoi, à l'Algérie ? Ils ont besoin encore de cirer les babouches du gouvernement algérien.
Votre phrase, pardonnez-moi, peut faire réagir, simplement.
Pourquoi ? Oh, ça va.
Écoutez.
Ça va. Le régime algérien est un régime corrompu qui manie depuis 60 ans une espèce de rente mémorielle. Ils vivent que sur ça. Vous êtes en Algérie. Vous savez,
pense à Christophe Claeze, notre confrère.
Exactement.
CNews Europe 1 demande sa libération.
Attendez. Vous savez comment vit le peuple algérien en Algérie ? Moi, j'y vais plus parce qu'ils me donnent plus de visa. Chaque fois que j'ai rencontré des Algériens, là, qu'est-ce qu'ils avaient envie ? De ne se débarrasser de ce régime. Et comme ils n'y arrivaient pas, de venir en France. C'est ça, la réalité. Et encore une fois, je ne confonds pas. je ne confonds pas, la clique de militaires corrompus qui sont à la tête de l'Algérie et le peuple algérien. Je ne confonds jamais l'un et l'autre. J'ai passé ma vie à dénoncer des régimes, j'ai passé ma vie à défendre les peuples que ces régimes opprimaient.
Pour certains, et je vais faire une transition qui va peut-être vous paraître osée, mais ce sont leurs propos qui sont, me semble-t-il, caricaturaux, parce qu'ils estiment que la répression est en France. Et je parle de certains parlementaires de la France insoumise ou eurodéputés. Rima Hassan dénonce à longueur de meetings, justement, la France, la répression en France, la police, et notamment l'ancien ministre de l'Intérieur avec des slogans comme « Abba Retailleau », faisant référence à ce qu'avait dit, il est vrai, Bruno Retailleau, à bas le voile. Que répondez-vous à cela ?
C'est une ennemie de ce pays. Rima Hassan, c'est une ennemie de la France. Elle flirte pas avec l'antisémitisme. Elle est antisémite. C'est pas exactement la même chose. C'est une honte pour la France insoumise d'accepter d'avoir parmi les siens quelqu'un qui tient ce propos-là. Mais c'est une bénédiction pour le Rassemblement, pour la France insoumise. Je veux dire, dans les quartiers, elle est adulée par un certain nombre de gens. Et en même temps, c'est méprisant, madame, par rapport à ses propres quartiers. Moi, je suis dans une ville où 70% des enfants des écoles publiques sont d'origine immigrée, donc 90% issus du Maghreb et donc la plupart du temps musulmans. Mais j'ai plus de respect pour eux, je ne les confonds pas avec des rimasses. Je ne pense pas qu'il pense des juifs ce qu'elle en dit.
Vous n'essentialisez pas.
Mais jamais. Enfin, attendez, vous plaisantez, je les défends. J'essaye de leur faire que leur vie soit un peu moins difficile. Et je les prends pas et je les brosse pas dans le sens du poil, des pires réactions qu'un certain nombre d'entre eux peuvent avoir. Je ne crois pas que les musulmans chez moi soient tous antisémites. Je suis allé voir un match du Maroc. J'étais assis à côté du président de la communauté juive. Personne n'a fait une remarque sur le président. Aucun, personne. C'est ça que j'aime.
21h46, on est en direct sur CNews et Europe 1. Parlons un peu de politique. Ça fait des années, Robert Ménard, que vous appelez à l'union des droites. Elle n'est toujours pas survenue. Qu'est-ce qui bloque ? Est-ce qu'elle verra un jour le jour ?
C'est désespérant. Il y a 10 ans, j'ai réuni à Béziers, autour Osta Droite, on avait appelé ça, tous les acteurs de la droite. Mais ils se trouvent tous des raisons de pas faire l'union. Le RN, parce qu'ils pensent que ça y est, l'Élysée vont gagner tout seul. Le LR, parce que tu as encore une partie qui pense que ils peuvent pas toucher la main du RN, c'est attraper je sais pas quoi, le choléra. C'est pas possible. Aujourd'hui, entre le LR, Sarah Knafo, Éric Zemmour, il y a Marion Maréchal Le Pen, Dupont-Aignan, Bruno Retailleau, et même, après avoir tout le mal que j'en ai dit, le garde des Sceaux actuel. Mais pourquoi ? Moi, j'ai envie de leur dire, on va vous réunir, venez donc à Béziers.
Et avec une primaire comprenant toutes ces personnalités.
D'abord, on parle tous ensemble et on essaye de voir si on ne peut pas se retrouver. Enfin, attendez.
Mais pardonnez-moi, qu'est-ce qui rapproche Gérald Darmanin de Sarah Knafo, sur le papier ?
Attendez. Pardon de rappeler que vous êtes un peu jeune pour ça. Mais
allez-y,
Non, tout à l'heure, vous m'avez reproché en disant que vous n'étiez pas né à ce programme. En 80, vous n'étiez pas né. Donc, en 1980. Qu'est-ce qu'il y a comme point commun entre Georges Marchais, François Mitterrand et, vous savez, Fabre, Monsieur Fabre, oui. Comment il était, le pharmacien de l'Aveyron. Il y en avait des points communs. Il y en a plus qu'entre les gens dont je viens de citer. Évidemment pas. À un moment donné, il faut gagner.
Oui. On sait comment il a utilisé les communistes, mais bon.
Oui, d'accord. Oui. Non, mais ça, c'est un autre débat. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut bien que tu t'asseyes sur la totalité de ce que tu penses, en disant, voilà, et ça, c'est le plus important, sur ça, j'y tiens, sur ça, au fond, je peux faire un compromis. Mais qu'est-ce qu'ils veulent éternellement perdre ? Tu peux pas à la fois dire, à longueur de discours, la France est au bord du gouffre, un pas de plus, et c'est un désastre absolu, on est menacé partout et tout, et puis pas en tirer les conséquences politiques. Mais en même temps, je vous dis ça, je n'en crois pas un mot.
Donc, ils n'y arriveront pas.
Attendez, vous les connaissez ? Allez, Moi, je leur propose à tous ceux dont je viens de parler, on laisse passer les élections municipales. Et regardez, ils ont même présenté un candidat contre moi.
Vous dire, l'union commence
non,
pas
non,
à la
mais attendez,
hein.
Regardez, ma regardez ma grandeur d'esprit. Je suis prêt à l'oublier. Au lendemain des municipales, venez à Béziers, on travaille ensemble et on essaye de se retrouver. Pourquoi je dis à Béziers? Pas parce que je suis maire de Béziers. Parce qu'on est une ville où, depuis 2014, il y a des élus de tous ces partis qui sont dans le même conseil municipal et qui travaillent ensemble depuis 12 ans maintenant, sans aucun problème. Ça veut dire qu'on doit y arriver. Alors les types te disent, oui, mais c'est vrai au niveau local et peut-être pas au niveau national. Mais commençons par se dire, voilà ce qui nous rassemble et on essaye d'aller un peu plus loin.
Vous parlez de rassemblement. Ce qui se passe par exemple à Paris est assez... Enfin, c'est une bataille qui s'annonce comme étant homérique quand même, avec des personnalités fortes de Rachida Dati, Sarah Knafo, on peut citer Sophia Chikirou également pour la France Insoumise. Vous aviez dit que vous aviez refusé, me semble-t-il, de soutenir Éric Zemmour à la présidentielle en raison de la dureté de ses propos sur l'islam. Et Sarah Knafo, par exemple, là vous la citez, est-ce que vous estimez qu'elle ne partage pas les mêmes idées?
En tout cas, elle ne le dit pas avec la même agressivité.
Ah oui, mais monsieur, c'est parce qu'on ne le dit pas qu'on ne le pense pas.
Attendez, ça, je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête, je ne la connais pas assez pour le savoir. Je pense que les mots ont un sens. Je pense qu'on crève la politique. Vous savez, vous disiez pourquoi aujourd'hui il y a cette division à droite et tout. C'est parce que je pense sincèrement qu'il n'y a personne à droite qui a été capable, qui est capable de parler avec les mots de vérité, mais en même temps avec attention aux gens. Les gens, ils sont malheureux, madame. Moi, les gens que je vois, ce matin, je reçois, comme tous les mercredis, des gens qui viennent me voir pour des histoires de logement et tout ça. Les gens, madame, ils sont malheureux. Malheureux. Ils sont... Je pense qu'on a du mal à s'en rendre compte. Aucun, vous deux, ni pas plus que moi, on a du mal à finir notre fin de mois. C'est pas vrai. Vous n'êtes pas à 3 euros à la fin du mois.
D'accord.
On va pas se raconter. Les gens que je vois à longueur de temps, Laurence Ferrari, les gens que je vois, ils sont dans cette situation.
Et donc, il faut arrêter de diviser, il faut arrêter de...
Il faut se dire, c'est pour eux qu'on fait de la politique. C'est pour eux. Alors, on essaye de pas les tromper, de pas leur dire on va augmenter le SMIC, je sais pas quoi, on va partir à la retraite plus tôt, on va faire ça et ça, parce qu'ils ne... Mais figurez-vous, ils sont pas assez abrutis pour le croire, les gens. Ils savent bien que quand vous leur promettez 10 000 choses, vous allez pas les tenir. Il faut arriver à tenir un langage, dire les choses, mais en étant, c'est pas un mot politique, en câlinant les gens. Ils ont besoin qu'ils se disent, oui, que vous les considérez, que vous êtes attentifs. Et puis, il faut trouver les mots pour parler aux gens.
Et les candidats, ils voudraient choisir en liberté. Nous arrivons donc à Marine Le Pen.
Juste à évoquer à Marine Le Pen, qui aujourd'hui et demain répond aux questions de ses juges dans le procès en appel des assistants parlementaires. Est-ce que vous pensez que le fait que 3 juges puissent décider de la physionomie de l'élection présidentielle de 2027 est un problème dans notre pays?
C'est un problème. C'est un scandale, madame. C'est impossible à accepter cette idée-là. Je trouve qu'aujourd'hui, mais c'est la classe politique qui, à un moment donné, a voulu laver plus blanc que blanc. Attendez, aujourd'hui, l'inéligibilité, il fallait la réserver à des cas extrêmes. Même si Marine Le Pen a fait un truc pas bien vis-à-vis du Parlement européen, si elle a même commis une faute, elle doit être sanctionnée, mais pas avec l'impossibilité de se présenter aux élections. C'est invraisemblable. Il y a 3 magistrats au nom du peuple français qui vont nous dire « Marine Le Pen ne peut pas se présenter ». Mais au nom de quoi, Coco? Mais qu'est-ce que tu es, toi? Le pouvoir que tu as, c'est le pouvoir qu'on t'a donné. Alors le type te dit « Oui, attendez, je sais ». C'est les hommes politiques qui leur ont donné ce pouvoir-là et tout ça. Mais alors donc, il y en a un certain nombre qui ont voté. Attendez, en 2017, ils ont voté des lois et encore, on a évité le pire. À un moment donné, ils voulaient que si t'es une condamnation, même pour une affaire de diffamation, tu ne pouvais plus être éligible. Enfin, c'est de la folie. L'inéligibilité, elle ne peut pas s'appliquer dans un cas comme ça. Marine Le Pen, elle ne s'est pas enrichie. Personnellement, elle n'a pas assassiné son voisin et elle n'a pas violé son compagnon. Enfin, on ne confond pas tout. Elle a fait peut-être, la justice le dira, quelque chose qu'il ne fallait pas faire, mais pas l'inéligibilité. Mais
quel sera son parcours donc, politique Attends, et son avenir
Vous imaginez comment les gens qui votent pour elle disent, c'est trois bonhommes, là, ils vont décider, ou bonhomme ou bonne femme, je sais pas, trois personnes, ils vont décider que je ne peux pas voter pour elle. Mais c'est pas possible.
En parlant de parcours et d'avenir, vous avez eu plusieurs vies. Vous avez été journaliste de nombreuses années à la tête de RSF, politique, maire, élu, avec tout ce que cela comporte, de proximité avec les citoyens. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vraiment vous donne envie de faire de la politique? Vous avez démarré en disant quand même une forme de dégoût par rapport à, en tout cas, l'aspect politicien des choses.
Alors, on avait une question de Didier qui était restaurateur aussi. Qui demandait quelles sont vos ambitions nationales
et si c'est deux choses différentes. Je me promène dans Béziers et je suis content d'avoir travaillé 12 ans pour ma ville. J'aurais jamais fait de politique si c'était pas dans ma ville. J'étais journaliste, pas avec votre talent et pas avec votre importance. Non, je le sais pas, ironique, c'est exactement ce que je pense. Pas avec votre talent et pas avec votre importance. Mais j'étais journaliste et j'étais heureux d'être journaliste. J'avais dirigé Reportage Frontière et ça avait été une aventure formidable de libérer des gens. Sortir de prison un certain nombre de gens, rien que ça, ça te changeait ta vie et tout ça. Et donc, puis, tous les jours, c'est maire, c'est pas rien. Vous savez, vous êtes... En plus, la dimanche, c'était les inondations chez moi, de 6h du matin à je sais pas quelle heure, tu es auprès des gens et tout ça. Et ça, c'est quand même un bonheur. Hein, ça te donne un bonheur absolu. Ça, c'est ma question. C'est pour ça.
La République, non, c'est pas pour vous.
Non. Vous savez...
Vous n'êtes pas...
J'en sais rien, mais... Je sais pas, mais... Il faut... Une assurance de soi-même, je trouve ça phénoménal. Tout à l'heure, vous me posez une question et je vous disais que je n'ai pas la réponse. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut faire semblant d'avoir des réponses à tout. Vous avez réponse à tout, vous? Vous savez tout sur la vie? Vous savez tout?
Non.
Enfin, je vous connais toutes les deux.
Non, en même temps, on n'aspire pas à être président de la République.
Non, mais dans ton métier, tu sais bien que tu ne sais pas tout. Il y a des gens qui pensent qu'ils savent tout sur tout. Je n'ai pas, je ne sais pas, cette prétention-là, peut-être ce talent-là, peut-être cette capacité-là, peut-être ces ambitions-là. Peut-être que si la droite s'entend pas, je vais leur dire maintenant, allez vous faire voir, je vais prendre leur place.
Et qu'on arrive à la fin de l'émission, ça on le sait. Écoutez, et on vous remercie.
Merci à vous d'avoir répondu
merci
à nos questions. Merci à nos téléspectateurs, nos auditeurs. Merci à vous, ma chère Sonia. C'est un bonheur d'être avec vous tous les soirs dans cette émission. Dans un instant, c'est Maëlle Hassani que vous retrouvez sur Europe 1 et bien sûr Gauthier Lebret sur CNews pour 100% politique. Bonne soirée à vous.
Et dites donc, Thomas Hill, si mes comptes sont bons, le 23 janvier, ça sera votre 500e de Culture Média.
500e? Ah oui, ça se fête, ça, Anissa.
Ben oui, il faut faire une grande fête, une grande émission avec du public.
Puis avec plein d'amis d'Europe 1 et de Culture Média, Jean-Pierre Foucault, Cyril Ferraud, Isabelle Iturburu, Barbara Pravi, Pascal Obispo, Bérangère Krief, que des gens sympas, quoi.
Culture Média.
La 500e de Thomas Hill sur Europe 1.
On confirme la date?
Le 23 janvier, en direct, de 10h à 11h30 sur Europe 1. Leclerc, bonjour.
Alors, pour nous, ce sera une assiette frites mayo, une assiette frites ketchup.
Supplément promo!
Vous parlez de la promo McCain?
Bah oui, je passe commande, comme au resto.
Bonne idée, mais il faudra tout de même venir chez Leclerc. Du 20 au 31 janvier, pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat de deux sachets de frites surgelées côté resto, côté burger, comptoir ou brasserie McCain, le troisième est offert. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Bonjour, c'est Dimitri Pavlenko. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1. Oui, vous avez le droit d'avoir une opinion.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko. Du lundi au vendredi, de 7h à 9h sur Europe 1. Europe 1.
La radio libre. Merci à Catherine. Merci à Nicole. André. Mireille. Ou encore Patrick. Merci à toutes ces personnes qui, grâce à leur legs en faveur du Secours catholique, nous ont donné les moyens d'agir chaque jour pour les plus démunis. Sur la terre comme au ciel, continuez vous aussi le combat pour la fraternité en faisant à votre tour un legs au Secours catholique. Demandez votre brochure legs auprès de Pascal en appelant le 0805 212 213 ou sur legs.secours-catholique.org.
On te la raconte.
Le podcast criminel le plus écouté de France.
Je vais vous raconter une histoire mythique.
Crime, passion, faits divers.
Chaque jour, découvrez ou redécouvrez une histoire qui vous révèle les tréfonds de l'âme humaine.
Ça n'est pas un accident de chasse. Quatre cartouches, c'est une exécution.
On de la Traconte. À écouter en podcast sur toutes les plateformes d'écoute, le site et l'application Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, il est bientôt 22h.
Europe 1 Nuit. Maël Hassani.
Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce mardi soir pour Europe 1 Nuit jusqu'à 22h30. À la une de votre journal, Donald Trump réaffirme depuis la Maison Blanche sa détermination à annexer le Groenland. Le président américain plus menaçant que jamais avec les Européens pour les faire plier. La riposte s'organise sur le vieux continent. L'accord commercial entre les États-Unis et les 27 est suspendu. Les dernières informations dès le début de ce journal. Un premier 49-3 dégainé par Sébastien Lecornu sur la partie recette du budget de l'État. Le Premier ministre passe en force sur un texte largement inspiré par le Parti socialiste qui ne censurera pas le gouvernement.